À l'automne 1770, jugeant qu'il avait amassé suffisamment de preuves, Whedon décida qu'il était grand temps de parler de ses découvertes, d'autant qu'il avait maintenant un deuxième témoin, ce qui écarterait toute suspicion de jalousie et de désir de vengeance. Il commença par se confier au capitaine de l'Enterprise, James Matthewson, parce que d'une part il le connaissait bien et ne craignait pas qu'il mette sa parole en doute, et que d'autre part il était suffisamment influent en ville pour être à son tour écouté avec respect. Ils se rencontrèrent dans une des salles privées de la taverne Sabine qui se trouve sur les docks, en présence de Smith qui pouvait corroborer les déclarations de Whedon. Le capitaine Matthewson fut très impressionné par le récit des deux jeunes gens. Comme presque tout le monde à Providence, il nourrissait les plus noirs soupçons à l'encontre de Joseph Curwen. Il leur demanda à peine quelques précisions, mais à la fin de l'entretien, leur fit promettre avec solennité de garder un secret absolu. Il transmettrait, disait-il, le récit à une dizaine de citoyens éminents de Providence, parmi les plus érudits, dont il accepterait le verdict par avance et suivrait n'importe quel conseil qu'il voudrait bien lui donner. En tous les cas, le secret était essentiel, car ce n'était une affaire ni pour la police, ni pour la milice de la ville. Et surtout, il fallait garder le public dans l'ignorance afin d'éviter la terrible panique de Salem qui avait fait fuir Curwen un siècle plus tôt. Les personnes de confiance à contacter étaient d'après lui le docteur Benjamin West, dont l'article sur le transit de Vénus prouvait qu'il était un scientifique de premier rang, le révérend James Manning, recteur de l'université qui venait juste d'arriver de Warren et qui logeait provisoirement dans la nouvelle école de King Street, l'ex-gouverneur Stephen Hopkins, homme aux idées modernes qui avait été membre de la Société de philosophie de Newport, John Carter, éditeur de la Gazette, les quatre frères Brown, John, Joseph, Nicolas et Moses, très appréciés à Providence. Joseph étant en outre un scientifique amateur. Le vieux docteur Jabez Bowen, homme d'érudition considérable, qui avait eu affaire à Curwen. Et le capitaine Abraham Whipple, téméraire corsaire, sur lequel on pouvait compter pour mener une éventuelle expédition punitive. En cas de réponse favorable, on se réunirait pour une discussion collective où l'on déciderait notamment si le gouverneur de la colonie, Joseph Wanton, devait ou non être tenu informé avant d'entreprendre quoi que ce soit. La mission du capitaine Matthewson réussit au-delà de toute espérance, car si deux des personnes contactées se montrèrent quelque peu sceptiques quant aux implications surnaturelles du récit de Whedon, toutes s'accordèrent sur la nécessité du secret et d'une action concertée. Il était évident que Curwen constituait une menace pour la ville et la colonie et qu'il devait à tout prix être mis hors d'état de nuire. En décembre 1770, le groupe de notables fut convié à une réunion organisée chez Stephen Hopkins afin de débattre des mesures à adopter. Les notes de Whedon furent lues en détail et on invita l'auteur ainsi que Smith à en préciser certains points. Un sentiment de crainte flottait sur l'assemblée, mêlé cependant à une sourde détermination que le capitaine Whipple résuma parfaitement par une série de jurons et d'insanités. Une action en dehors de la stricte légalité leur paraissait indispensable et il fut décidé de ne pas mettre le gouverneur au courant. Avec les pouvoirs occultes dont il disposait apparemment, Curwen ne serait pas homme à céder à un simple avis d'expulsion. Il en résulterait peut-être des représailles, et même si ce sinistre personnage s'exécutait, on ne ferait que déplacer le problème vers une autre communauté. C'était une époque anarchique, et des hommes qui avaient nargué les percepteurs du roi n'allaient pas reculer face à une situation autrement grave. Il fallait surprendre Curwen dans sa ferme de Pawtuxet avec une troupe de corsaires décidés et lui donner une dernière chance de s'expliquer. Si ce n'était qu'un fou s'amusant à contrefaire des voix dans des conversations imaginaires parsemées de gémissements et de hurlements, on le ferait interner. Mais si c'était quelque chose de plus grave, si les horreurs souterraines étaient avérées, alors lui et tous ses serviteurs devraient mourir. Cela pourrait se faire en douceur et ni la veuve ni son père ne sauraient jamais rien de ce qui s'est passé. Alors que ces discussions allaient bon train, un incident se produisit en ville, si terrible et si inexplicable, que pendant quelque temps on ne parla que de cela à plusieurs miles à la ronde. Par une nuit de janvier, une de ces belles nuits où le sol enneigé est éclairé par la lune, une série de hurlements terribles résonnèrent sur la rivière et la colline. les habitants de Weybosset Point, tirés de leur sommeil en sursaut, allèrent à leur fenêtre et virent une forme blanche qui courait sur le terrain situé en face de la tête de Turc. Au loin, les chiens aboyaient, mais ils cessèrent aussitôt qu'ils entendirent la clameur de la ville éveillée. Plusieurs groupes d'habitants munis de lanternes et armés de mousquets se dépêchèrent d'aller sur les lieux, mais ils ne remarquèrent rien. Le lendemain, le cadavre d'un homme gigantesque et musculeux, complètement nu, fut découvert sur la glace près des piliers sud du grand pont, non loin du dock qui longe la distillerie à bottes. Son identité demeurait inconnue et fit l'objet de toutes les spéculations et de toutes les rumeurs. Ce sont surtout les anciens qui en parlaient à voix basse, car ce visage rigide, aux yeux révulsés, leur rappelait un souvenir. Ses traits hideux ressemblaient, c'était évidemment impossible, à ceux d'un homme qui était mort il y a plus de 50 ans. Ezra Whedon, qui avait assisté à cette découverte, se rappelant les aboiements de la nuit précédente, longea Weybosset Street et traversa le pont Muddy Dock où les cris avaient commencé. En arrivant à la limite du district, là où les rues convergent dans Pawtuxet Road, il trouva des traces étranges dans la neige. Le géant nu avait été poursuivi par des hommes et leurs chiens, et on distinguait clairement les empreintes qu'ils avaient laissées. Ils avaient abandonné leur poursuite aux abords de la ville. Whedon sourit et suivit les empreintes jusqu'à leur point de départ et d'arrivée. C'était, comme il s'en doutait, la ferme de Joseph Curven, mais une exploration de jour ne l'intéressait pas. Le docteur Bowen pratiqua une autopsie sur le cadavre qui révéla des anomalies inquiétantes. L'appareil digestif de l'homme semblait être inutilisé et sa peau avait une étrange texture un peu grossière. Mettant à profit les bruits qui circulaient parmi les anciens sur sa ressemblance avec le forgeron Daniel Green, dont le petit-fils Aaron Hoppin était second chez l'armateur Curven, Whedon, après une brève enquête, finit par découvrir où il était enterré. Cette nuit-là, une dizaine d'hommes se rendirent au cimetière nord le long de Herndon Street et ouvrirent son cercueil. Il était vide, comme il s'y attendait. Entre-temps, on s'était arrangé avec les cavaliers de la poste pour intercepter le courrier de Joseph Curven. Peu avant l'incident du géant nu, une lettre d'un certain Jedediah Horn de Salem arriva. Des extraits en ont été transcrits et conservés dans les archives privées de la famille Smith. Ils sont rédigés ainsi. « Je suis fort aise que vous continuiez de vous procurer les choses passées à votre manière et ne pense point que l'on fit mieux chez M. Hutchinson à Salem Village. Ce que vous envoyâtes ne fonctionna point pour ce qu'il manquait une chose ou pour ce que les mots furent mal recopiés ou mal prononcés par moi. Me voici donc embarrassé. Je ne possède pas votre art de l'alchimie pour appliquer Borellus et je comprends mal le 7e livre du Necronomicon que vous me recommandâtes. Souffrez cependant que je vous rappelle la vigilance que nous devons apporter dans le choix de ceux que nous appelons. Vous savez ce que dit M. Mater dans le Magnalia de... Là, le passage est illisible. Et pouvez fidèlement juger qu'il rapporte des abominations. Je vous le dis encore, n'invoquez personne que vous ne puissiez renvoyer, ce par quoi je veux dire personne qui pourrait à son tour appeler quelque chose contre laquelle vous seriez impuissant. Appelez les mineurs de peur que les majeurs ne refusent de répondre et finissent même par vous commander. J'ai pris peur quand j'ai appris que vous saviez ce que Ben Zariatnamik cache dans la boîte d'ébène, car je sais qui vous l'a révélé. Pour la deuxième fois, je vous demande de m'appeler par le nom de mon fils, Jedediah, et pas par le mien. Vous savez qu'on ne peut vivre trop longtemps dans cette communauté, et vous connaissez ma nouvelle identité. Faites-moi savoir, je vous prie, ce que l'homme noir a appris de Sylvanus Cossidius dans la crypte. Enfin, je serai votre obligé si vous daignez me prêter le manuscrit dont vous parlez. » Une autre lettre de Philadelphie ne fut pas moins surprenante. « Je suivrai vos ordres en envoyant les livres de compte uniquement par vos navires, mais je vous fais observer que j'en ignore en général la date d'arrivée. Dans notre affaire, j'ai besoin d'une dernière chose, mais je désire être sûr de vous bien avoir compris. » Vous me dites qu'aucun élément ne peut manquer si l'on veut un résultat parfait, mais vous savez combien c'est difficile. Cela me semble grand danger et fardeau bien lourd d'emporter entièrement la caisse. En tout cas en ville, surtout dans les églises, c'est absolument impossible. Je sais les imperfections de celui que j'ai appelé en octobre et combien de spécimens vivants vous avez dû utiliser avant de trouver la bonne méthode en 1766. Je me conformerai donc à vos recommandations en toutes choses. J'attends votre brique avec impatience et je vais chaque jour sur le quai de M. Biddle. Il y avait enfin une troisième lettre, mais elle était rédigée dans une langue et un alphabet inconnus. Dans un des carnets de Smith, Charles Ward a retrouvé une suite de caractères bizarres, recopiés plusieurs fois. Des linguistes de l'université Brown ont déclaré qu'il s'agirait d'amharique ou peut-être d'abyssin. Cependant, ils ont été incapables de traduire la lettre. Aucun des courriers détournés ne fut jamais remis à Curven, et la disparition de Jedediah Horn de Salem, qui se produisit peu après, montre que ces hommes de Providence savaient agir fermement et discrètement. La Société historique de Pennsylvanie possède également des lettres reçues par le docteur Shippen qui attestent de l'existence d'un autre personnage très malsain à Philadelphie. D'autres actions furent décidées au cours de réunions secrètes tenues dans les entrepôts Brown. Lentement, mais sûrement, un plan de campagne se mettait en place destiné à éliminer Joseph Curven et à en effacer à jamais le souvenir. Ce dernier dut se douter de quelque chose, car on vit bientôt un air inquiet apparaître sur son visage. À toutes les heures, on remarquait sa voiture en ville et à Pawtuxet Road, et petit à petit, il finit par abandonner la fausse cordialité qu'il avait affectée pour dissiper les préjugés dont la ville l'accablait. Une nuit, les voisins les plus proches de la ferme, les Fenner, remarquèrent un faisceau lumineux qui, jaillissant d'une mystérieuse ouverture dans le toit du bâtiment aux meurtrières, se dirigeait vers le ciel, événement dont ils firent rapidement part à John Brown de Providence. M. Brown était devenu le chef du groupe voué à l'élimination de Curven, et il confia aux Fenner qu'une action contre lui allait avoir lieu de manière imminente. Il jugea qu'il était indispensable de les prévenir du fait qu'immanquablement ils assisteraient au raid. Il leur raconta donc que Curven était un espion des douanes contre lesquels les armateurs, les marchands et même les fermiers étaient très remontés. Il est impossible de dire si cette fable berna les fermiers qui avaient été témoins de tant d'événements étranges. Toujours est-il qu'ils étaient tout disposés à attribuer n'importe quelle vilenie à cet homme si inquiétant. Brown leur confia la tâche de surveiller la ferme et de rapporter sans délai tout événement qu'ils y observeraient.